Chapitre 23. Comme le soir arrivait, un cavalier couvert de poussière entra dans Rochefort. Les quatre fers de son cheval arrachaient des étincelles au pavé, tant sa course était rapide. C'était Grain de sel. Grain de sel qui apportait à Diane la grâce du comte de Mainhardi, Grain de sel qui précédait le général et son neveu de 2 heures à peine. Le roi avait fait grâce, le roi pardonnait complètement et autorisait le comte de Mainhardi à rester dans ses terres en Vendée. Diane, éperdue, hors d'elle-même, conduite par ses deux cousins, courut chez le général qui commandait une place. Le général la prit par la main et lui dit « Ce sera vous, madame, qui annoncerez à votre époux la nouvelle que vous m'apportez. » Et le général conduisit Diane à la prison, fit ouvrir devant elle toutes les portes et en fait celle du cachot où Hector gisait depuis 8 jours. Le comte était couché sur son lit, immobile, le visage au mur. Il paraissait dormir. « Hector ! Hector, mon bien-aimé ! » s'écria la baronne Rupert en se précipitant vers lui. Mais soudain, elle jeta un cri, puis elle recula, revint vers lui, poussa un cri encore, leva les yeux au ciel, et tout à coup fit entendre un bruyant éclat de rire. La baronne Rupert était devenue folle subitement, en s'apercevant que M. le comte Hector de Mainhardi était mort. Le comte avait ajouté foi à la lettre de l'infâme vicomte de la Morlière, et il s'était enfoncé son poignard dans le cœur. La mort avait dû être instantané. Chapitre 24. 3 ans après la mort du comte Hector de Mainhardi, par une belle journée d'hiver, une grande calèche de ville, dont on avait baissé la capote, monta vers 2 heures l'avenue des Champs-Élysées, tourna l'Arc de Triomphe, descendit l'avenue de Neuilly et entra dans le bois par la porte de Maillot. Dans le fond de la calèche, un vieillard, portant sa barbe blanche, la boutonnière ornée d'une rosette multicolore, était assis à côté d'une jeune femme vêtue de noir, dont le regard avait une singulière expression d'égarement. Cette femme tenait sur ses genoux une jolie enfant blonde et rose qu'elle embrassait pour ainsi dire sans relâche et avec une tendresse délirante et presque frénétique. Sur le siège du devant, leur faisant vis-à-vis, un homme jeune encore et qui touchait à peine à la quarantaine, causait avec le vieillard, en caressant du bout des doigts les mèches bouclées de la chevelure de l'enfant. Cette femme, on l'a deviné, c'était Madame la baronne Rupert. Cette petite fille blonde et rose qu'elle portait dans ses bras avec orgueil, c'était l'enfant posthume du malheureux comte Hector de Mainhardi. Diane était folle depuis le jour où Hector avait été trouvé mort dans sa prison. Sa folie avait eu 2 phases bien distinctes. Pendant la première, la baronne avait été morne, sombre, désespérée, en proie à une sorte de stupeur contemplative. Cet état mental avait duré près de 3 mois. Puis une nuit, Diane était devenue mère, et alors la vie, qui avait en elle des racines puissantes, la vie avait triomphé peu à peu, soutenue par l'instinct maternel. De farouche qu'elle était, la folie de la baronne était devenue douce, sentimentale, parfois rieuse. Quand elle avait son enfant dans les bras, Diane était presque raisonnable. Or, ce jour-là, le vieux général de Morfontaine et son neveu le comte de la Morlière n'avaient point sans motif sérieux emmené la pauvre folle à la promenade. Ces motifs, les voici. Il y avait à Paris depuis quelques mois un médecin brésilien qui n'exerçait sa profession que dans des cas tout à fait exceptionnels. Cet homme, jeune encore, était un original plusieurs fois millionnaire qui se promenait chaque jour aux Champs-Élysées, monté sur un petit cheval à tout crin et vêtu d'un menton de gaucho, dont la couleur avait fini par lui valoir le surnom du docteur Rouge. Or, le docteur Rouge n'exerçait pas, mais il était très habile, disait-on, surtout à guérir la folie. Le général était donc monté en voiture avec sa fille et son neveu, et tous trois allaient au pavillon de Madrid, dans le bois de Boulogne, où, disait-on, le docteur avait coutume d'aller déjeuner tous les jours entre 12h et 14h. Cet homme étrange, on le savait, avait une répugnance invincible à prodiguer les secours de sa science et, disait-on, ce n'était guère que par surprise qu'on parvenait à obtenir ses soins. Quand la calèche arriva à Madrid, le général aperçut un petit cheval attaché à la porte et le reconnut sur le champ pour être celui du docteur. L'homme qui les accompagnait descendit le premier et donna la main à Diane, qui sauta lestement à terre et ne voulut point se dessaisir de son enfant. Cet homme n'était autre que M. le vicomte de la Morlière, neveu du général. « Viens, ma fille, ma Diane adorée, » dit M. de Morfontaine en prenant le bras de sa fille et en la faisant entrer dans le pavillon. La baronne se laissa conduire avec la docilité d'un enfant, mais comme elle entrait dans le salon du rez-de-chaussée, ses regards furent attirés par le manteau rouge et le visage bronzé du docteur. Le Brésilien déjeunait fort tranquillement devant une petite table placée auprès du feu, et il parcourait un journal. Diane jeta un petit cri d'étonnement, s'approcha de lui, et se prit à le considérer, lui et son manteau, avec une curiosité qui eût pu paraître étrange, si le général, en se hâtant de saluer le docteur, ne lui eût fait ce léger signe qui caractérise la folie et qui consiste à se frapper le front. Au reste, le général avait pris une peine inutile, car le Brésilien avait sur-le-champ deviné l'état mental de la baronne. Diane, après avoir regardé le docteur, le salua et vint s'asseoir à quelque distance devant une table. Puis elle parut avoir oublié le lieu où elle était et les gens qui l'entouraient. Absorbée tout entière par son enfant, elle se prit à le couvrir de caresses et à passer ses doigts dans sa blonde chevelure. Alors M. de Morfontaine s'approcha du docteur et lui fit mille excuses. Mais le docteur l'interrompit et lui dit « Est-ce votre femme, monsieur ? C'est ma fille. Depuis quand est-elle folle ? » continua-t-il tout bas. « Depuis 3 ans. Faites-moi connaître les causes qui ont déterminé sa folie et peut-être la guérirai-je. »« Ah, monsieur !» murmura le général avec émotion. « Laissez-moi vous l'avouer. Je ne suis venu ici qu'avec l'espoir de vous rencontrer... »« Votre nom, monsieur ?» ?»« Le général Marquis de Morfontaine. » Le docteur s'inclina d'une façon qui faisait comprendre que le nom de son interlocuteur ne lui était pas complètement inconnu. Puis il lui dit tout bas, « Est-ce un désespoir d'amour ?»« Oui. » »« Le père de l'enfant ?»« Oui, » dit encore le général. « L'a-t-il abandonné ?»« Non, il est mort. »« Cela me suffit, » dit le docteur. En ce moment, M. de la Morlière, qui était demeuré un peu en arrière, s'approcha et écouta attentivement. « Général, disait le docteur, je guérirai madame votre fille. Attendez-moi ce soir vers 6 heures à votre hôtel. Je prescrirai un traitement. » « Et, s'écria le général, vous la guérirez ? En 2 mois ? » répondit le docteur avec l'accent de la conviction. Le vicomte de la Morlière quitta l'hôtel de la rue de Varennes vers 8h30 et monta dans son cabriolet à pompe qui attendait au bas du perron. Son cheval allemand était beau trotteur et le vicomte eut franchi en quelques minutes la distance qui sépare le faubourg Saint-Germain de la rue des Écuries d'Artois. C'était là que demeurait M. le chevalier de Morfontaine. Le tigre du vicomte, qui était pendu aux étrivières, descendit lestement au moment où le cabriolet s'arrêtait devant la porte d'une maison à locataire. « Tom, lui dit M. de la Morlière, sonne et demande si le chevalier est chez lui. » Le tigre entra et revint annoncer que M. le chevalier de Morfontaine était chez lui. Le vicomte jeta les guides au tigre et monta d'un pas rapide les 20 marches qui conduisaient à l'appartement de garçon que le chevalier occupait à l'entresol. M. de Morfontaine était rentré depuis quelques minutes à peine et il s'installait, un livre à la main, un cigare à la bouche, au coin de son feu, lorsque son valet de chambre introduisit M. de la Morlière. « Chevalier, lui dit celui-ci, sais-tu où nous pourrons trouver Passe-Croix ?
Certainement, oui.
Bonjour, vicomte.
Bonjour, chevalier.
J'ai dîné avec lui chez Nathalie et je l'y ai laissé jouer en whist.
Nathalie Rollin, du gymnase ?
Précisément. C'est à 2 pas d'ici, rue d'Anjou-Saint-Honoré, n'est-ce pas ?
Numéro 29, ajouta le chevalier.
Monsieur de la Morlière ouvrit la croisée du fumoir qui donnait sur la rue. Tom ! Cria-t-il. Le tigre, qui s'était chaudement enveloppé dans la peau de renard bleu que son maître plaçait sur ses jambes, sortit à demi la tête du cabriolet.
Cours, rue d'Anjou, 29, chez Madame Rollin.
« Oui, monsieur. Et ramène-moi sur le champ, monsieur le baron, de Passe-Croix. » Le tigre partit avec le cabriolet et le vicomte referma la croisée. Puis il vint se rasseoir au coin du feu.
« Ah ça !» lui dit le chevalier. « Qu'est-ce que tu veux au baron ?»
Monsieur de la Morlière prit un air grave.
« Je veux tenir conseil avec vous deux, » répondit-il.
« Tenir conseil ? À propos de notre héritage. »«
Diable, mon cher ami !» dit le chevalier. « Il me semble que pour ta part, tu y as un peu renoncé. »
« Comment cela ? Tu t'es marié ?»«
Dame, » fit le vicomte, qui eut un mouvement d'humeur.
« Tout a tourné contre nous, mon cher. Nous nous sommes débarrassés de ce niais de Mardi en pure perte.
J'en conviens. »
Diane est devenue folle.
« Et, » dit le chevalier, « on n'épouse pas une folle, n'est-ce pas, vicomte ?»«
C'est difficile. La loi s'y oppose. »«
Alors, tu t'es marié.
Donc, tu nous as laissé le champ libre, à Passe-Croix et à moi, pour le cas où Diane viendrait jamais à recouvrer la raison.
Attends le baron, dit monsieur de la Morlière, et je m'expliquerai.
Il prit un cigare sur la cheminée et garda un silence que le chevalier n'eut garde d'interrompre.
Quelques minutes s'écoulèrent, puis on entendit dans la rue le roulement d'une voiture.
C'était le cabriolet du vicomte qui ramenait monsieur de Passecroix.
Le baron, qui on s'en souvient, était le plus jeune des trois cousins. Le baron, disons-nous, touchait alors à la trentaine, tandis que monsieur de Morfontaine avait 34 ans et le vicomte de la Morlière 38.
« Mon cher baron, dit monsieur de la Morlière en le voyant entrer, assieds-toi et écoutez-moi bien tous deux.
Oh, fit monsieur de Passecroix.
J'ai dîné chez notre oncle le général.
Bien. Comment va Diane ? Le vicomte eut un mauvais sourire.
Le général vient de la confier aux soins d'un docteur brésilien qui répond de la guérir en moins d'un mois.
Bravo, s'écria le chevalier.
À merveille, dit le baron.
Monsieur de la Morlière demeura grave.
Donc, poursuivit-il, si tu veux épouser Diane, toi, baron, il te faudra tuer le chevalier. Et toi, chevalier, je t'engage à te débarrasser du baron.
Les deux jeunes gens froncèrent le sourcil et se regardèrent avec défiance.
Alors seulement, le vicomte se prit à rire.
« Vous voyez bien, dit-il, qu'il faut que j'intervienne entre vous.
Et soyez tranquille, vous allez voir que je sais tout concilier. » Les deux cousins avaient dans la scélératesse du vicomte une confiance assez large.
« Voyons, demandèrent-ils en même temps. »
Le vicomte reprit. « Si vous le voulez bien, dit-il, nous allons établir un petit calcul.
Quelle fortune, notre oncle le général ?»«
100 000 livres de rente, au moins, dit le baron.
Et Diane ?»
Diane a hérité de la fortune de son mari qui est d'au moins 50.
Très bien.
C'est donc 150 000 livres de rente qu'on pourrait partager également.
Hein ?
Fit le chevalier de Morfontaine. Je ne pense pas que Diane puisse nous épouser tous les trois.
D'abord, observa le vicomte en riant, la bigamie n'étant point permise en France non plus que le divorce,
il faudrait que la vicomtesse de la Morlière, qui m'a déjà donné 2 enfants, vint à mourir.
Mais, dit le baron, Charles et moi nous sommes garçons.
C'est vrai.
Et celui que Diane épousera sera tout simplement le tuteur de cette petite fille qui renferme en ses veines la dernière goutte du sang des Mahardi.
C'est juste, dit le chevalier de Morfontaine, mais cette petite fille est très jeune encore, elle est frêle, délicate.
Le sourire diabolique du vicomte reparut sur ses lèvres minces.
Assez, dit-il, j'ai compris.
Mais il me semble, interrompit le baron, que notre ami le chevalier escompte un peu trop sur l'avenir.
Dame, fit ingénument le chevalier, j'en suis au chapitre des probabilités.
Probabilité est bien le mot, dit le vicomte.
Ah, sans doute.
Le chevalier Morfontaine, dernier du nom.
Pff, fit monsieur de Passecroix.
Malgré toutes ses idées libérales, poursuivit le comte, notre oncle tient à son nom.
Il donnera Diane au chevalier si.
Hein, voyons le si, demanda monsieur de Passecroix.
Si Diane l'aime, dit le chevalier,
ce n'est pas cela, mon cher, si je le veux.
Et monsieur de la Morlière se redressa et regarda froidement ses deux interlocuteurs.
« Ah ça, mon cher !» interrompit le chevalier, dont la voix calme et polie cachait mal une sourde irritation.
« Il me semble que tu n'as plus rien à voir en cette affaire.
C'est ce qui te trompe.
Hein ?
Écoutez-moi bien, mes chers cousins. »
Continua monsieur de la Morlière, toujours calme et railleur, « et reportez-vous à l'époque où nous nous jurâmes des secours mutuels alors qu'il nous fallait faire disparaître l'ennemi commun, c'est-à-dire nous débarrasser de Mahardi.
Nous avons été unis alors,
d'accord,
mais nous ne sommes encore arrivés à rien.
Pourquoi t'es-tu marié ?
Ah, pardon, ceci est une question à part.
Maintenant, ajouta le vicomte, afin de couper court à toute discussion ultérieure, je vous dirai nettement que dans le cas où Diane recouvrerait la raison, je m'opposerai formellement à son mariage avec l'un de vous.
Monsieur de Passecroix baissa la tête.
Mais que veux-tu donc ?
S'écria le chevalier.
« Écoutez-moi bien.
Tout à l'heure, Morfontaine prétendait que la fille de Diane était frêle, délicate.
C'est vrai.
Eh, mais il me semble, reprit le vicomte, que si l'enfant est dans de telles conditions, la mère qui est frappée de folie. »
Monsieur de la Morlière s'arrêta et ses deux cousins se regardaient en frissonnant.
« Messieurs, continua-t-il après un moment de silence, un dernier mot.
« Nous sommes gens à comprendre bien les choses sans qu'il soit besoin d'entrer dans de longues explications. »«
Certes, dit le baron.
Donc voici ce que je vous propose. 50 000 livres de rente pour chacun. »
« À prendre sur quoi ?»
Le vicomte haussa les épaules. Baron, dit-il, tu nous fais perdre notre temps en explications oiseuses.
C'est vrai, dit le chevalier. Monsieur de la Morlière ajouta.
Si tu ne comprends point, tant pis pour toi. Morfontaine a compris.
Parbleu.
50 000 livres de rente, poursuivit monsieur de la Morlière. Vale la peine qu'on s'en occupe.
Oh, je comprends cela parfaitement, dit le baron, et je devine à présent où se trouve la somme à partager.
C'est heureux.
Mais pour cela, il faut bien des choses.
Le hasard a des combinaisons.
Il faut que l'enfant de Diane.
Il est faible et délicat.
Il faut que la mère.
La folie abrège la vie.
Bon, dit le chevalier, tout cela est fort clair, seulement.
Le chevalier s'arrêta.
Seulement, insista monsieur de la Morlière.
Qui de nous se chargera?
Moi. Le vicomte prononça ce mot avec un calme parfait.
Mon cher cousin, lui dit le baron, je ne veux pas te faire un compliment, mais en vérité, tu es un scélérat remarquable.
Fit modestement le vicomte.
Puis il se versa du thé, alluma un nouveau cigare et dit à ses cousins.
Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous quitter.
Où vas-tu?
Chez notre oncle.
Mais si tu en viens,
j'y retourne.
Pourquoi?
Je veux assister à la consultation du docteur brésilien.
Ah ça, crois-tu donc, demanda le chevalier, que cet homme puisse guérir Diane?
J'en suis convaincu.
C'est-à-dire que si Diane a le temps, elle guérira. Mais il peut se faire qu'elle meure avant sa guérison.
Et le vicomte se leva, pressa la main de ses cousins, s'enveloppa dans son pardessus d'alpaga blanc et sortit.
Mon Dieu, murmura-t-il en remontant dans son cabriolet, il faut se donner un mal inouï pour revendiquer son héritage.
Pendant ce temps, le docteur Samuel, dit le docteur Rouge, arrivait à l'hôtel de Morfontaine, rue de Grenelle. Le général l'attendait avec impatience. Diane, tenant toujours son enfant dans ses bras, était assise au coin du feu. Le docteur la regarda fort attentivement, mais il ne s'approcha point d'elle.
« Monsieur, dit-il au général, il est nécessaire que je sache comment votre fille est devenue folle et que vous me racontiez dans leurs plus minutieux détails les événements qui ont déterminé cette folie.
« Hélas, répondit monsieur de Morfontaine, je suis prêt à vous faire ce triste récit, mais
je parlerai bas, elle pourrait entendre.
« Oh, dit le docteur, elle entendra, mais ne comprendra pas. »
Il alla s'asseoir avec le général dans un coin du salon. En ce moment, le vicomte de la Morlière entra.
« Bien, lui dit le général, tu connais cette lamentable histoire aussi bien que moi, et tu vas pouvoir la raconter au docteur.
« Hélas, soupira le vicomte d'un ton hypocrite.
Le docteur écouta fort attentivement le récit de monsieur de la Morlière. Le vicomte n'omit aucun détail de ce lugubre drame qui s'était déroulé à Belle-Ombre d'abord et ensuite à Rochefort.
« Tout cela est fort étrange,
murmura le Brésilien, quand monsieur de la Morlière eut fini.
« Étrange en effet, dit le général.
Car, reprit le docteur, comment expliquer la trahison de cette Ambroise qui aurait dû, en sa qualité de valet de chambre de la baronne Rupert, se dévouer à son maître futur?
Ah, dit le vicomte, j'ai eu l'explication de sa conduite.
Vraiment, fit le général.
Pardonnez-moi, mon oncle, se hâta de dire monsieur de la Morlière. Pardonnez-moi si j'ai toujours évité de vous reparler de votre malheur. J'ai reçu une lettre d'Ambroise.
Ah,
fit le général étonné. Et d'où venait-elle?
De Londres. Le vicomte déboutonna son habit et retira de sa poche de côté un petit portefeuille qu'il ouvrit. Parmi les divers papiers que contenait ce portefeuille se trouvait une lettre déjà jaunie et portant le timbre de la poste de Londres. Cette lettre était adressée à M. le vicomte de la Morlière, 7 rue Thébout à Paris. M. de la Morlière l'ouvrit et lut tout haut.
« Monsieur le vicomte, je suis à Londres. J'ai mis la mer entre votre colère et moi et je vais vous parler à cœur ouvert. »
« N'accusez personne, monsieur le vicomte, de la mort de monsieur de Mahardy.
C'est moi qui ai tout fait.
C'est moi qui l'ai fait tomber dans le piège à loup. C'est moi qui ai prévenu le juge de paix qui l'a arrêté. Moi, enfin, qui lui ai fait parvenir dans sa prison un billet sans signature qui lui apprenait que sa grâce avait été refusée. »
Le général interrompit brusquement la lecture de monsieur de la Morlière.
« Oh, le misérable ! » s'écria-t-il. « Mais que lui avait donc fait monsieur de Mahardy ?
« Attendez, mon oncle, il l'explique dans sa lettre. »
Et le vicomte poursuivit sa lecture.
« J'avais voué un respect et un attachement sans bornes à feu monsieur le baron Rupert, le premier mari de madame Diane. Quand j'ai vu qu'elle aimait le comte, j'étais furieux.
j'ai ressenti pour lui une haine violente, implacable, et je l'ai assouvie. Je suis avec respect, monsieur le vicomte, votre serviteur, Ambroise, ancien valet de chambre, actuellement couché dans Regent Street. » Le général avait posé sa tête dans ses mains, et de grosses larmes jaillirent au travers de ses doigts. « Pardon, monsieur, » dit le docteur en s'adressant à monsieur de la Morlière, « comment nommiez-vous le petit paysan qui servait de passager ? Grain de sel. Où est-il ? À Belle-Ombre, avec sa mère. » « Eh bien, » dit le docteur, « il faut le faire venir. Où ? Ici. » Le général releva la tête. « Je compte beaucoup sur sa présence, » poursuivit le docteur. « Elle doit, à mon sens, hâter la guérison de votre cher malade. »« Ah ! » s'écria le général, « je vais lui écrire. Il sera ici dans 8 jours. » Monsieur de la Morlière fronçait le sourcil et pensait. « Je n'aime pas trouver grain de sel sur mon chemin. Le gars est rusé, il est dévoué, il est fidèle. Peut-être faudra-t-il s'en débarrasser. »